C'est connu depuis de nombreuses années. Il y a une corruption qui est très importante en Angola. Il y a eu plusieurs rapports, notamment de Human Rights Watch, d'organisations comme Global Witness aussi, qui ont montré qu'une partie importante des recettes pétrolières n'apparaissait nulle part dans la comptabilité officielle de l'État. Donc disparaissait, on ne sait pas exactement où. Mais je dirais qu'au-delà de ça, il y a effectivement un grave problème de redistribution de ces richesses en Angola. La situation a quand même changé un peu depuis 2002. C'est-à-dire qu'il y a un effort de reconstruction qui a été fait. Ça, on ne peut pas le nier. Surtout sur les infrastructures, les routes, les ponts qui avaient énormément souffert de 25 années de guerre civile. Donc ça a changé. La ville de Luanda elle-même a beaucoup changé. Il y a beaucoup de constructions nouvelles qui sont là. Mais on n'a pas tellement l'impression qu'il y ait un effort très important de réduction de la pauvreté par contre qui a été fait.
Alors ces recettes pétrolières d'où viennent-elles? On imagine que les richesses naturelles de l'Angola en pleine crise du pétrole attisent toutes les convoitises au niveau mondial. Alors comment le pays gère-t-il cette situation?
Le gouvernement de José Eduardo dos Santos a vraiment réussi à se rendre plus ou moins incontournable sur la scène diplomatique et bien sûr sur la scène aussi de l'approvisionnement en ressources minérales, en pétrole notamment, avec l'augmentation des prix du pétrole, avec la volonté déclarée des États-Unis de diversifier leur approvisionnement en pétrole et de se libérer un petit peu, entre guillemets, de leur dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient et de l'Arabie Saoudite. Évidemment que l'Angola a pris un rôle de plus en plus important. Et là où le gouvernement angolais a été très fort aussi, c'est qu'il a réussi toujours à jouer les uns contre les autres, à s'assurer qu'il ne mettait pas tous ses œufs dans le même panier au niveau diplomatique et dans ses relations commerciales aussi autour du pétrole, de manière à ce que les intérêts des uns puissent jouer contre les intérêts des autres et finalement jouer en sa faveur. On l'a vu avec l'arrivée en force, par exemple, de la Chine sur la scène angolaise au début des années 2000, la Chine qui a fait des prêts très importants, en tout à peu près 7 milliards de dollars à l'Angola, des prêts sans conditions, particulière, notamment en termes de démocratisation, des choses comme ça. Ça a bien sûr remis un petit peu en cause l'équilibre qui existait à ce moment-là entre les principaux alliés ou partenaires commerciaux de l'Angola, qui étaient la France, les États-Unis, enfin plutôt les États-Unis et la France dans l'ordre d'importance. Et je crois que c'est par cette espèce de triangulation multiple, entre guillemets, que l'Angola a réussi vraiment à renforcer sa position.
Justement, ce pays qui a la croissance économique la plus élevée d'Afrique, deuxième pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, quel position en retire-t-il sur le continent africain en matière géopolitique?
Disons, je crois que la volonté de l'Angola est d'être un petit peu la charnière comme ça à l'Afrique centrale entre, d'une part, le Nigeria au nord, qui est clairement la grande puissance de l'Afrique de l'Ouest, et l'Afrique du Sud, qui, elle, est non seulement une puissance au niveau continental, mais plus particulièrement, bien sûr, en Afrique australe. Et l'Angola est de plus en plus en train de s'imposer comme un pays charnière pour toute la région centrale, notamment le golfe de Guinée. Et je crois qu'une partie de sa politique étrangère dans la région va dans ce sens-là. C'est-à-dire que, vu encore une fois l'augmentation des prix du pétrole, le fait qu'on a découvert beaucoup de nouveaux puits de pétrole dans le golfe de Guinée, si l'Angola, et c'est ce qui est en train de se passer, arrive à se présenter comme étant l'acteur principal, celui qui est dans la meilleure position pour assurer une stabilité régionale dans le golfe de Guinée, donc aussi de permettre un accès sans trop de problèmes aux ressources pétrolières de cette région, je pense que ça ne fera que renforcer encore une fois la position de l'Angola sur ce terrain-là. Ce qui est plus difficile, par contre, pour l'Angola jusqu'à maintenant, c'est d'intervenir, je dirais, d'un point de vue politique, notamment dans le règlement de conflits en Afrique centrale, notamment en RDC, dans la région des Grands Lacs. C'est beaucoup plus difficile pour l'Angola d'imposer encore comme force politique ou politico-militaire qui est crédible, par exemple, dans l'accompagnement de résolution de conflits.